Chapitre 7, deuxième partie. Ruines et décombres au-dedans de ces murs, ainsi que je m'y attendais, non par la faute des boxers ni des alliés, car la guerre n'a point passé par là, mais par suite du délabrement, de la tombée en poussière de toute cette Chine, notre aînée de plus de 30 siècles. Et le gong en avant de moi continue de sonner lugubrement à coups espacés. Et les héros continuent de m'annoncer au peuple par de longs cris, dans les petites rues poudreuses, sous le soleil encore brûlant du soir. On aperçoit des terrains vagues, des champs ensemencés, et ça et là, des monstres en granit, frustes, informes, à demi enfouis, la grimace usée par les ans, indiquent où furent jadis des entrées de palais. Devant une porte que surmonte un pavillon tricolore, mon cortège s'arrête et je m'épieds à terre. Là, depuis 7 ou 8 mois, sont casernés nos 50 soldats d'infanterie de marine qui viennent de passer à Lai Shouxian tout un long hiver, séparés du reste du monde par des neiges, par des steppes glacées, et menant une sorte d'existence de Robinson au milieu d'ambiances pour eux si déroutantes. C'est une surprise et une joie d'arriver parmi eux, de retrouver ces braves figures de chez nous, après tous ces bonhommes jaunes qui se pressaient sur la route, dardant leurs petits yeux énigmatiques. Et ce quartier français est comme un coin de vie, de gaieté et de jeunesse, au milieu de la vieille Chine momifiée. On voit que l'hiver a été salubre pour nos soldats, car ils ont la santé aux joues. Et ils se sont organisés d'ailleurs avec une ingéniosité comique et un peu merveilleuse, créant des lavoirs, des salles de douche, une salle d'école pour apprendre le français aux petits chinois, et même un théâtre. Vivant en intime camaraderie avec les gens de la ville, qui bientôt ne voudront plus les laisser partir, ils cultivent des jardins potagers, élèvent des poules, des moutons, des petits corbeaux à la béquée, voire des bébés orphelins. Il est convenu que je dois aller dormir chez le mandarin, après avoir soupé au poste français. Et à 9 heures, des lanternes de parade, très chinoisement peinturlurées, grandes comme des tonneaux, viennent me chercher pour me conduire au Yamen. C'est toujours d'une profondeur sans fin, les Yamen chinois. Dans la nuit fraîche, entre des monstres de pierre, entre des serviteurs rangés en haies, je franchis aux lanternes une enfilade de 200 mètres de cour, et combien de portiques en ruine, de péristyles aux marches branlantes, avant d'atteindre le logis poussiéreux et vermoulu que le mandarin me destine. Un bâtiment séparé, au milieu d'une sorte de préau, parmi de vieux arbres aux troncs difformes. J'ai là, sous des solives enfumées, une grande salle blanchie à la chaux, contenant au milieu, sur une estrade, des sièges comme des trônes. Ailleurs, de lourds fauteuils d'ébène, et pour orner les murs, quelques rouleaux de soie éployés, sur lesquels des poésies sont inscrites en caractères mandchous. Dans l'aile de gauche, une chambrette pour mes 2 serviteurs. Dans l'aile de droite, une pour moi, avec des carreaux en papier de riz, un très dur couchage sur une estrade et sous des couvertures de soie rouge, enfin un brûle-parfum où se consument des baguettes d'encens. Tout cela est campagnard, naïf et suranné aussi, vieillot même en Chine. Mon hôte, timide, en costume de cérémonie, m'attendait devant la porte et me fait prendre place avec lui sur les trônes du milieu, pour m'offrir le thé obligatoire dans des porcelaines de 100 ans. Puis, avec discrétion, il se hâte de lever la séance et de me souhaiter bonne nuit. En se retirant, il m'invite à ne pas m'inquiéter si j'entends beaucoup de va-et-vient dans mon plafond. Il est hanté par les rats. Je ne devrais pas m'inquiéter non plus si j'entends derrière mes carreaux de papier des personnes se promener dans le préau en jouant du claquebois. Ce seront les veilleurs de nuit, m'informant ainsi qu'ils ne dorment point et font bonne garde. « Il y a beaucoup de brigands dans le pays, » ajouta-t-il. « Cependant la cité, si haut murée, ferme ses portes au coucher du soleil. mais des laboureurs, pour aller aux champs avant le jour, ont pratiqué un trou dans les remparts, et les brigands, qui, hélas, en ont eu connaissance, ne se font point faute d'entrer par là. » Et quand il est parti, le mandarin aux longues révérences, « Quand je suis seul dans l'obscurité de ce logis, au cœur de la ville isolée dont les portes sont garnies de têtes humaines dans des cages, je me sens infiniment loin, séparé du monde qui est le mien par des espaces immenses et aussi par des temps, par des âges. Il me paraît que je vais m'endormir au milieu d'une humanité en retard d'au moins 1000 ans sur la nôtre. » Samedi 27 avril. Des chants de coqs, des chants de petits oiseaux sur mon toit m'éveillent dans la vieille chambre étrange, et à travers le tamisage des carreaux de papier, je devine que le chaud soleil rayonne au dehors. Haussmann et Renaud, levés avant moi, viennent alors m'avertir que l'on fait en hâte de grands préparatifs dans les cours du Yamen pour me donner une fête du matin, puisque je dois remonter à cheval et continuer ma route vers les sépultures impériales aussitôt après le repas de midi. Cela commence vers 9 heures. À l'ombre d'un portique, dont les boiseries ébauchent des figures grimaçantes, je suis assis dans un fauteuil, à côté d'un mandarin qui semble effondré sous ses robes de soie. Devant moi, au soleil étincelant, c'est l'enfilade des cours, des autres portiques en silhouette biscornue et des vieux monstres sur leur socle. La foule chinoise, toujours les hommes seulement, bien entendu, est là assemblée dans ses éternels haillons de coton bleu. Le vent jaune qui s'était apaisé la nuit, suivant son habitude, recommence de souffler et de blanchir le ciel de poussière. Et les acacias, les saules monotones, qui sont à peu près les seuls arbres répandus dans cette Chine du Nord, montrent çà et là de vieilles ramures grêles, aux petites feuilles à peine écloses, d'un vert encore tout pâle. Voici d'abord le défilé très lent d'une musique, beaucoup de gongs, de cymbales, de clochettes sonnant en sourdine. La mélodie est comme chantée par un mélancolique et doux et persistant unisson de flûtes. De grandes flûtes au timbre grave, dont quelques-unes ont des tuyaux multiples et ressemblent à des gerbes de roseaux. Ces berceurs et lointains, exquis à entendre. Les musiciens maintenant s'asseyent près de nous, en cercle, pour mener la fête. Le rythme tout à coup change, s'accélère. Les sonnettes s'agitent, les gongs battent plus fort, et cela devient une danse. Alors, de là-bas, du recul des cours et des vieux portiques, dans la poussière qui s'épaissit, on voit, au-dessus des têtes de la foule, arriver en dansant une troupe de personnages qui ont 2 fois la taille humaine et qui se dandinent en mesure et qui jouent du sistre, qui s'éventent, qui se démènent de façon exagérée, névrosée, épileptique. Des géants? Des pantins? Qu'est-ce que ça peut bien être? Cependant, ils arrivent très vite avec leurs grandes enjambées sautillantes et les voici devant nous. Ah, des échassiers prodigieux, plus haut perchés sur leurs jambes de bois que des bergers landais, et bondissant comme de longues sauterelles. Et ils sont costumés, grimés, peints, fardés. Ils ont des perruques, de fausses barbes, ils représentent des dieux, des génies tels qu'on en voit dans les vieilles pagodes. Ils représentent des princesses aussi, ayant de belles robes de soie brodées, ayant des joues trop blanches et trop roses et des fleurs artificielles piquées dans le chignon. Des princesses tout en longueur qui s'éventent d'une façon exagérée, en se dandinant toujours ainsi que la troupe entière d'un même mouvement régulier, incessant, obsédant comme celui des balanciers de pendule. Or, ces échassiers, paraît-il, sont tout simplement les jeunes garçons d'un village voisin, de braves petits campagnards formés en société de gymnastique et qui font cela pour s'amuser. Dans les moindres villages de la Chine intérieure, bien des siècles, des millénaires avant que la coutume en soit venue chez nous, les garçons, de père en fils, ont commencé de s'adonner passionnément aux jeux de force ou d'adresse, de fonder des sociétés rivales, les unes d'acrobates, les autres d'équilibristes ou de jongleurs, et d'organiser des concours. C'est pendant les longs hivers surtout qu'ils s'exercent, quand tout est glacé et que chaque petit groupement humain doit vivre seul au milieu d'un désert de neige. En effet, malgré les perruques blanches et les vieilles barbes de centenaires, on voit que tout ce monde est jeune, très jeune, avec des sourires enfantins. Elles sourient naïvement, les princesses gentilles et drôles, aux trop longues jambes, qui ont des mouvements si excitants d'éventail et qui dansent de plus en plus dégingandées, qui se cambrent, qui se renversent, dodelinant de la tête et du torse avec frénésie. Ils sourient naïvement, les vieillards qui ont des figures d'enfants et qui battent du sistre ou du tambourin comme des possédés. L'union persistant des flûtes semble à la longue les ensorceler, les mettre dans un état spécial de démence qui se traduit par l'excès du tic des ours. À un signal, les voici chacun sur une seule jambe, sur une seule échasse, l'autre jambe relevée, l'autre échasse rejetée sur l'épaule, et par des prodiges d'équilibre, ils dansent tout de même, ils se dandinent tout de même, plus que jamais, comme des marionnettes dont les ressorts s'affolent, dont le mécanisme va sûrement se détraquer. On apporte alors en courant des barrières de 2 mètres de haut, et ils les sautent à cloche-pied, tous, princesses, vieillards ou génies, sans cesser leur jeu d'éventail ni leur batterie de tambourin. Quand enfin n'en pouvant plus, ils vont s'adosser aux portiques, aux vieux acacias, aux vieux saules, une autre bande toute pareille sur des jambes aussi longues, les garçons d'un autre village, arrivent du fond des cours en se dandinant et recommencent sur le même air une danse semblable. Ils reproduisent les mêmes personnages, les mêmes génies, les mêmes dieux à longue barbe, les mêmes belles dames minaudières. Dans leurs accoutrements pour nous si inconnus, avec leurs figures si bizarrement grimées, ces danseurs incarnent des rêves mythologiques bien anciens, faits autrefois dans la nuit des âges par une humanité infiniment distante de la nôtre, et tout cela, de génération en génération, se transmet par tout le pays d'une manière inchangeable, ainsi que se transmettent toujours, en Chine, les rites, les formes et les choses. Du reste, dans son étrangeté extrême, cette fête, cette danse demeure très villageoise, très campagnarde, naïve comme un divertissement de laboureurs. Ils ont fini de sauter leurs barrières, et à présent, on voit poindre, du même là-bas toujours, 2 épouvantables bêtes qui marchent de front. Une bête rouge et une bête verte. Ce sont 2 grands dragons héraldiques, longs d'au moins 20 mètres, dressant la tête, la gueule béante, ayant ses horribles yeux louches, ses cornes, ses griffes que chacun sait. Cela s'avance très vite, comme courant et se tordant au-dessus des épaules de la foule, avec des ondulations de reptiles. Mais c'est tout léger, en carton, en étoffe tendue sur des cercles, chaque bête supportée en l'air au bout de bâton par 12 de jeunes hommes très exercés qui savent, par des trucs subtils, donner à l'ensemble l'allure des serpents. Et une sorte de maître de balai les précède, tenant en main une boule que les porteurs ne perdent pas de vue et dont il se sert comme un chef d'orchestre de sa baguette pour guider le tortillement des 2 monstres. D'abord, les 2 grandes bêtes se contentent de danser devant moi, au son des flûtes et des gongs, dans le cercle de la foule chinoise qui s'est élargie pour leur faire place. Ensuite, cela devient tout à fait terrible. Elles se battent, tandis que les gongs et les cymbales font rage. Elles s'en mêlent, elles s'enroulent l'une à l'autre, ayant l'air de s'étreindre. On les voit traîner leurs longs anneaux dans la poussière, et puis, tout à coup, d'un bond, elles se redressent, comme cabrées, les 2 énormes têtes se faisant face avec un tremblement de fureur. Et le maître de balai, à agitant sa boule directrice, se démène et roule des yeux féroces. Et la poussière s'épaissit sur la foule, sur les porteurs qu'on ne voit plus. La poussière se lève en nuages, rendant à demi fantastique cette bataille de la bête rouge et de la bête verte. Le soleil brûle comme en pays tropical, et cependant le triste avril chinois, anémié par tant de sécheresse après l'hiver de glace, s'indique à peine ici par la nuance très tendre de quelques petites feuilles apparues aux vieux saules, aux vieux acacias de cette cour. Après le déjeuner, des mandarins de la plaine, précédés de musique, arrivent des villages, m'apportent des offrandes pastorales, des paniers de raisins conservés, des paniers de poires, des poules vivantes dans des cages, une jarre de vin de riz. Ils sont coiffés du bonnet officiel d'hiver à plumes de corbeau et vêtus de robes de soie sombre, avec sur le dos et sur la poitrine un carré de broderie d'or, au milieu duquel est figurée, parmi des nuages, une toujours invariable cigogne s'envolant vers la lune. Presque tous, vieillards desséchés, à barbiche grise, à moustache grise qui retombe. Et avec eux, ce sont de grands chinchins, de grandes révérences, de grands compliments. Des poignées de main où l'on se sent comme griffé par des ongles trop longs, emmanchés de vieux doigts maigres. À 2 heures, je remonte à cheval avec mes hommes et je m'en vais à travers les décombres des rues, précédé du même cortège qu'à l'arrivée, les gongs sonnant en glas et les héros poussant leurs cris. Derrière moi, suit le mandarin de Séan dans sa chaise à porteur, suivent les compagnies des chassiers et les 2 dragons monstrueux. Au sortir de la ville, dans le tunnel profond des portes où la foule est déjà assemblée pour me voir, tout cela s'engouffre avec nous, les princesses aux enjambées de 3 mètres, les dieux qui jouent du sistre ou du tambourin, et la bête rouge et la bête verte. Sous la voûte demi-obscure, au fracas de tous les sistres et de tous les gongs, dans des envolées de poussière noirâtre qui vous aveuglent, c'est une mêlée compacte où nos chevaux se traversent et bondissent, troublés par le bruit, affolés par les 2 épouvantables monstres qui ondulent au-dessus de nos têtes. Après nous avoir reconduits à 1/4 lieue des murs, ce cortège enfin nous quitte. Et nous retrouvons le silence, dans la plaine brûlante où nous avons à faire 20 kilomètres environ, à travers la poussière et le vent jaune, pour atteindre Icheu, une autre vieille ville murée qui sera notre étape de ce soir. Demain seulement, nous arriverons au tombeau.